première semaine de 98, quand les événements en fait commencent à Brazza. Donc on ne sait pas très très bien parce qu'en fait nous on nous a demandé de sortir de Bakongo où on habitait et aller dans la zone nord parce qu'il y a Brazza Nord et puis Brazza Sud, et dans le sud de Brazzaville il y avait pas mal d'événements, il y avait des troupes qui s'affrontaient, donc les troupes rebelles entre guillemets et les forces disons loyalistes s'il faut le dire. Donc on se déplace dans la zone nord où on était censé être en sécurité. Donc après, derrière, on ne sait pas très très bien en fait ce qui s'est passé parce que les gens commençaient les pillages ainsi de suite et tout. Et puis là, dans ces pillages, bon, on a mis le feu à certaines maisons. Mais c'était visiblement quand même bien ciblé.
On va peut-être pas trop, si tu voulais intervenir, mais enfin, comme historiquement, si vous voulez.
Moi, ce qui me semble intéressant, c'est l'indétermination, si je puis dire. C'est pas au plan de la guerre, qui était décembre 97. Bakongo, et je précise que la maison se trouvait dans le quartier Bakongo, quartier sud, et donc beaucoup de le quartier a été évacué. Il y a eu l'exode. On peut dire dans le pool, les gens se sont quittés leur maison, sont partis. Le quartier est occupé donc par la milice gouvernementale. Enfin bon, on ne va pas revenir sur les détails de la politique, mais ce qui s'est extraordinaire, c'est que c'était pas pendant cette période, on peut dire guerrière. C'était évidemment tout le monde avait évacué le pays, donc on ne sait pas si c'est, on peut dire des milices du sud, des ninjas. Non, c'était plus les ninjas, c'était les milice du pasteur Ntoumi, voilà. Ou si c'était les soldats loyalistes, enfin, voilà. Donc, ça reste un petit peu dans cette... correspond à pourquoi on a mis le feu, pourquoi symboliquement, si vous voulez, il y a eu des pillages. On aurait pu piller, mais on pillait pas trop les livres. Prenez ce qu'il y avait de plus. Pourquoi s'acharner comme ça pour faire flamber cette bibliothèque? C'est ça qui nous a semblé, on n'a pas de réponse à cette question, mais qu'est-ce qui fait que l'écrit, l'imprimé même, pouvait être dangereux? On ne sait pas si c'est la personne même de Sylvain, en tant qu'il représentait comme justement, qui était quelqu'un qui ne s'était pas engagé ni l'un contre l'autre, qui était quelqu'un un peu entre les deux. De quel côté et comment, voilà, ça reste une énigme, mais symboliquement c'est très fort qu'on ait mis le feu à ce en quoi la littérature, l'écrit a pu être visé par ce qu'elle représentait. Pourquoi brûler les livres, enfin c'est voilà, c'était un peu ça. Patrice, tu veux peut-être
ajouter quelque chose? C'est-à-dire moi ce qui m'étonne quand même, qui m'a étonné d'abord, parce que les maisons d'à côté sont debout. Il n'y a que celle-là, je pense, qui a été...
Les photos, peut-être, ont montré...
Il n'y a que celle-là qui a été vraiment... mais rasé. C'est pas brûlé seulement. C'est-à-dire, brûlé, on peut voir le squelette de la maison, mais rasé. Alors, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui m'a étonné, c'est que André Passian Bokiba a subi quasiment la même chose. On lui a aussi brûlé la main. C'est-à-dire que là, c'est ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque part une subversion de l'écrit qu'il faut faire disparaître. Troisièmement, c'est qu'il y a eu des pillages de bouquins. Il y a eu des pillages de bouquins, puisque moi, j'ai réacheté mes propres bouquins au marché. Alors, j'ai dit au gars, mais ça, c'est mon bouquin. Il me dit, ah ben non. J'ai dit, regardez, il y a mon nom. C'est moi, c'est mon bouquin. Il me dit, mais c'est pas grave, pour le moment, ça n'est pas le tien. Si tu veux le reprendre, je peux te faire un prix, mais c'est plus ton bouquin. Moi, c'est vrai que j'ai racheté des bouquins, moi. Donc, c'est pour dire que... Et d'ailleurs, j'ai même racheté Rire Noir. Pour tout te dire, tu vois, de Nicolas, pour lui dire...
C'était... C'est noir de suie.
Non, c'était pour dire que... Mais là, parce que cette période-là, fait, qui correspond à... Voilà.
L'État, en 2003, je suis revenu, et là, on est Alors, c'est assez émouvant pour ceux qui connaissent. Et vous voyez là, au premier plan, c'est vert, c'est la petite terrasse. Là où nous sommes avec Victor Milapassi, le frère de Sonny Labotensi, la petite terrasse verte, c'est là où on s'asseyait, ou là où on y recevait. On ne reçoit pas forcément dans, c'est important dans la pratique, hein, forcément dans la chambre au bureau, etc. Il recevait les gens sur sa petite terrasse, là, et c'est vraiment... Voilà, le reste, c'était la maison était là, la bibliothèque, là où se trouve... c'était là où a été tournée la partie de l'entretien sur le film. Je ne sais pas si je t'ai interrompu. Tu veux réagir?
Non. Non, sur le film ou bien...
je ne sais pas. Ou sur cette problématique annoncée, qu'est-ce qui fait que... cette espèce de... Je ne sais pas, réflexe, mais pourquoi incendier les livres? Est-ce que c'est comme dans Fahrenheit? Est-ce que c'est... C'est cette culture-là qui gêne. Qu'est-ce qui reste? Est-ce qui, je sais pas, cette volonté d'effacer. Qu'est-ce qui est dangereux dans le livre qu'on veuille le brûler, quoi? C'est.
Oui, parce que sa bibliothèque a été brûlée après sa mort. Parce que oui. Sylvain Bemba est mort en 95.
Oui.
En
95, en temps de Sony, un mois après.
Enfin, il vivait à Bas-Congo et peut-être que sans... Enfin, c'est parce qu'il a été aussi un homme politique, Sylvain Bemba. Peut-être qu'il y avait des choses à lui reprocher de sa position en politique. Enfin, c'est des questions que je me pose.
Moi, je ne pense pas que ça soit lié à... Oui, ça peut être tout lié. Tout peut être lié à... mais c'est pas, je ne pense pas que ça soit ça. Je pense que la figure... C'est pour ça que peut-être la figure de Sylvain Bemba est intéressante, parce que c'est la figure de l'intellectuel vraiment, comme on le pense en Afrique. C'est-à-dire qu'un homme de culture. C'est même pas l'intellectuel, c'est un homme de culture.
Il était aussi bibliothécaire.
Voilà, c'est-à-dire qu'il a... Il était musicien. Il était... C'est l'un des premiers critiques d'art que j'ai vu au Congo. Ouais. Il a été journaliste sportif. Il a été journaliste, tout simplement, aussi, puisqu'en 1955, alors qu'il est très jeune, il a déjà eu le premier prix du plus jeune journaliste d'Afrique, hein, à l'époque, d'Afrique francophone, mais ça se disait pas à l'époque encore. Donc, il est écrivain, bien sûr, il est dramaturge. Donc, il a vraiment toutes les palettes qui font qu'il peut être une mémoire réelle d'une histoire congolaise, d'autant que, bon, il a été homme politique aussi. Mais il n'a pas été homme politique parce qu'il a voulu l'être, mais parce que sous le parti unique, on pouvait être consigné pour l'être. C'est-à-dire que... on pouvait être consigné, c'est-à-dire qu'on vous nommait directement, et quelquefois on vous nomme le matin, deux semaines le soir, vous êtes destitué parce qu'entre-temps on a appris des choses. Donc c'est pour vous dire à quelle vitesse. Et on pourra parler de cet épisode-là où il est nommé, où il est nommé ministre de la Culture. Tout simplement, c'est une époque où il y avait le fameux maquis de Ange Diawara et Sylvain Bemba. Et Ange Diawara étaient très liés depuis Sibiti, où tous les deux sont natifs, quasiment. Donc, ils étaient très, très liés. Et donc, quand Diawara était dans la forêt, à l'époque, dans le maquis, ils avaient une correspondance. Et Sylvain, c'était celui qui faisait passer des livres. Et donc, il y a eu qu'il y a eu une fuite qui a fait qu'on a découvert cette piste-là. Et donc, le meilleur moyen de contrôler Sylvain, ça avait été de le nommer, justement, à un poste tel que, c'est la méthode soviétique, hein, c'est-à-dire plus haut on te nomme, on n'a qu'à tirer l'échelle, la chute sera encore plus grande. Donc, c'était ça qui avait été fait à l'époque. Mais parce qu'on n'a jamais réussi à établir vraiment. Mais la façon dont les gens... qui étaient dans la forêt, ils sortaient des documents d'une telle qualité qu'on s'était dit que c'était pas possible que Sylvain ne soit pas dans ce réseau-là, si vous voulez. Donc c'est peut-être pour ça. Mais ce n'est pas ça, je pense, qui a pu amener la destruction de la maison, puisque ça c'était Sungwabi.
Il a été aussi arrêté en 72.
Voilà, mais justement, c'était lié à ça, parce que nous sommes dans une période que je ne sais pas si Ricardo peut s'en souvenir encore.
Oui, je me rappelle très bien.
Oui, ouais, il était plus jeune, mais...
J'étais plus jeune, c'est vrai, mais je sais que... donc, Diawara se retrouve au maquis, entre guillemets, mais la veille, ils se sont vus. La veille, ils se sont vus et Diawara passe lui dire que bon, voilà, demain, je crois que je vais déclencher le mouvement. Donc, le lendemain, c'est le 22 février. Ensuite, il est au maquis. Et pendant qu'il est au maquis, effectivement, il y a une correspondance. Il y a une correspondance avec Diawara. Donc, il lui passe et des livres et des journaux. Beaucoup de journaux, beaucoup de livres d'ailleurs. Mais malheureusement, pour eux, la personne qui faisait le lien était également en contact avec le pouvoir en place. Donc les documents, avant qu'ils n'arrivent à la maison, passaient d'abord entre les mains des services de sécurité, qui prenaient le soin d'ouvrir, de lire, ils refermaient et ils étaient acheminés, à la maison. Et donc plus tard, effectivement, il a été nommé ministre. Par Marien. Bon, il s'est toujours demandé après, mais comment, parce qu'il savait quelque part que j'étais en contact avec Diawara, qui était entre-temps recherché à Brazza. On m'a quand même nommé ministre par Marien. Et quand il est nommé ministre par Marien, au début, il ne voulait pas tellement, parce que, bon, Marien le convoque à l'état-major et tout, il le reçoit, non, on m'a parlé de vous, que vous êtes quelqu'un, voilà, et... Là, je vais refaire mon gouvernement, donc j'ai pensé à vous comme ministre de l'Information, Culture, Arts et Sports. Et lui, au début, il refuse pratiquement, il discute, c'est argument contre argument. Et le vieux me dit, à un moment donné, je commets une maladresse. Et je dis à Marien, mais vous savez, camarade président, je suis fils unique. Donc si j'accepte ce poste, ma mère va être dans tous ses états, donc... Et il me dit, bon, malheureusement pour moi, Marien maintenant me retorque, mais moi également, je suis fils unique. Je suis fils unique, camarade Sylvain, donc la révolution a eu besoin de moi, donc. Et il ne peut plus refuser, donc il accepte. Et un ou deux mois après, malheureusement, bon, il est écarté.
Oui, moi je voudrais peut-être. Là aussi. Quelque chose de, dans les livres, enfin je disais, c'est pas. Tu as parlé de lettres avec Diawara, et c'est une conception de littérature par correspondance. La lettre, c'est quelque chose qui s'est adressé à quelqu'un, c'est en même temps secret. Enfin, c'est une. Je me demande s'il n'y a pas ça dans cette conception qui n'est pas uniquement. La bibliothèque de Lopez ce matin, c'était le livre au sens de la bibliothèque publique, c'est-à-dire, voilà. Tandis que là, chez Sylvain, il rentrait, je me souviens une fois, on parlait de Sony, etc., il est rentré, il a cherché une lettre qu'il avait, d'ailleurs, il a publié une partie de la correspondance qu'il a eue, il a expurgé peut-être des choses, mais voilà, il y avait ce côté chez lui, je ne sais pas si vous, en tant que fils, vous avez pu explorer, mais il y avait beaucoup de manuscrits, il me le disait ce matin. Non. Et sur ce que lisent les gens, etc., sur la côté de la bibliothèque, c'est ce qu'il dit, le territoire de ses... Il parle de Sony, hein. Le territoire de ses lectures est qui est plus ou moins, pour moi, terra incognita. Cela peut surprendre à première vue. Sans doute, nous avons eu avec Sony des goûts littéraires très proches. Sans doute, celui qui découvre une perle n'hésite pas à en parler à l'autre. Mais il se trouve simplement que si chez moi, on peut contrôler facilement mes auteurs préférés, par le fait que ma petite bibliothèque fait partie de mon salon, il n'en est pas de même chez Sony, où les livres vivent, entre guillemets, dans sa chambre à coucher. Et chez les Congolais, une chambre à coucher d'un ami marié est tabou, même pour le meilleur copain, sauf en cas de maladie grave. Voilà. Donc bon. Ensuite, il parle de ses lectures, mais c'est la conception même de ce que. Enfin, pas de Sony, mais surtout c'est la même balle. Les différences de conception même de ce que c'est que, qu'un livre et la bibliothèque. Et quand il m'avait présenté cette lettre que Sony lui avait envoyée en 82, bon, moi je l'ai photocopiée et publiée, mais c'est, je tombe, je dis, mais il y avait combien de trésors là-dedans qui sont partis en fumée, parce qu'il conservait tout, il classait, c'était en même temps un archiviste, quoi.
Voilà, parce que moi je pense que dans ce que tu dis, il y a trois choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que Sylvain Bemba était déjà lui-même la bibliothèque de la fratrie. C'est d'abord la première chose. C'est-à-dire, et Ricardo vient de le dire, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il prenait, c'est-à-dire tout le monde venait lui faire lire des choses.
C'est ce qu'il dit au début.
Tout le monde venait lui faire lire. Quasiment. Moi, je sais que nous avons eu une espèce de... Pendant la conférence, nous avons eu une espèce de mouvement qu'on appelait le mouvement pour les libertés et la démocratie. On avait sorti des documents. Mais ces documents-là, il ne les avait pas. Il les avait lus comme ça ou il les avait parcourus, quelqu'un lui avait fait lire. Et là, une des rares fois qu'on se voit, on discute comme ça, il me dit, ah, alors moi, je n'ai pas de voix. Alors moi, je n'ai pas droit à l'original. Voilà. Donc, je peux les lire comme ça. Donc, j'étais obligé, je ne sais pas, lui, il m'a rappelé qu'il m'avait vu. Donc, j'étais obligé de lui apporter les documents du MOLIDE, du Mouvement pour les libertés et la démocratie. Donc, j'étais obligé de les lui apporter. Et donc, il faut s'imaginer tout ce qu'il pouvait avoir, c'est-à-dire Tati Luta, du Lopez. C'est-à-dire toutes les versions qu'il corrigeait, parce qu'en fait, il était correcteur. Il était à la fois correcteur pour la semaine africaine pour laquelle il faisait des piches chaque semaine, mais il était aussi correcteur pour les autres, c'est-à-dire il lisait, relisait et tout.
Oui, ouais. Au point qu'on disait même qu'il réécrivait carrément les livres. Hein.
Oui, on disait que...
C'était pas Sony qui avait écrit ses livres.
C'était Sylvain, alors que Sylvain était très modeste là-dessus. Il avait quasiment la même vision que Nadeau. C'est-à-dire qu'une œuvre, elle dépasse forcément même le lecteur, quoi. Toutes les... Et donc, il y avait cette première, c'est-à-dire que lui-même, il était déjà la bibliothèque du groupe. Donc, cela veut dire que... Et il avait quasiment tout. Et deuxièmement, il a été bibliothèque, parce qu'une des formes qu'on a eu de le punir aussi, c'est de le... je pense, de le dégrader. Il était reparti à la bibliothèque.
Non, en fait, il est reparti à la bibliothèque, c'est lui qui avait fait le choix. Ah. C'est-à-dire, quand il sort de, comment on appelle ça, de la résidence surveillée, donc la prison, il est resté 7 ou 8 mois, il n'a pas d'activité. Et au bout du 7e ou bien 8e mois, on le fait recevoir par Tister, qui est ministre de l'enseignement à l'époque. Et Tister, quand il arrive, le reçoit, il dit, bon, mais voilà, tu as purgé ta peine parce qu'il est condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis. Mais maintenant, Tister veut le faire repartir comme directeur à l'information ou à la culture.
Voilà.
Parce que, bon, il trouve que ça ne se passe plus très, très bien avec les gars du 22 février qui sont partis. Il y a beaucoup de flottements, donc ça ne se passait pas bien. Donc, on lui demande de reprendre un département. Alors il dit, je sors de Tôle, je vais repartir là-bas. Quel va être le regard des gens? Il dit non, il me faut un petit coin caché quelque part où les gens ne pourront plus me voir. Et il pense à la bibliothèque de l'université. Il me dit, là-bas, au moins c'est un coin tranquille où j'arrive, personne ne me connaît. Comme j'aime les livres, avec tous les livres qu'il y a là-bas et tout, bon, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il dit non, mais j'aimerais aller à tel endroit. Et Tister insiste, oui, mais c'est pas bien, tu as quand même été, donc le mieux serait. Il dit, non, 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 moi j'ai réfléchi, je vais aller à tel endroit, si ça ne pose pas problème. Et là, Tister dit, bon, ça ne pose pas problème, donc on le met à la bibliothèque, et quand il arrive, bon, il essaie de révolutionner la bibliothèque, ainsi de suite, donner vie également, par rapport à ce qui se passait avant. Et plus tard, malheureusement, ben, il a été rappelé par les autres. Quand Tati Luta est revenu, il a dit « Non, mais tu ne peux pas rester là-bas, donc il faut que tu viennes avec moi de temps en temps au ministère. Comme ça, tu pourras m'aider parce que, également, au ministère, Il y a plein de choses qui ne tournent pas rond. Donc voilà comment il se retrouve là-bas.
Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, en fait, quand il arrive à la bibliothèque, il a accès, puisqu'il fallait déposer les manuscrits des mémoires, il n'y avait pas encore de thèse, il a accès à tous les mémoires. Voilà. C'est ça qui est étonnant. Donc tout le monde vient lui faire, le grand frère, il y a Sylvain, il faut que tu... Est-ce que tu ne peux pas lire ça avant que...
Voilà, avant donc, que ça ne puisse...
Donc il devient le lecteur attitré de tous les étudiants qui font leur mémoire de licence ou de maîtrise, puisque c'était la dernière. Donc c'est ça qui est... Et donc c'est comme ça qu'il prend connaissance même de certains mémoires. En fait, il arrive à faire venir des thèses même de passer en France par les étudiants congolais qui lui envoient. Et donc, il classe tout ça dans la bibliothèque. Et d'ailleurs, une partie de... on le voit dans le maniement qu'il a dans son livre sur la musique congolaise, en fait, qui s'inspire de beaucoup. Il discute avec des gens qui ont travaillé sur ces questions-là, Matondo Kubutouré, par exemple, ou Donc, on voit bien que c'est une place qui devient finalement subversive, même quelque part, alors qu'il ne fait totalement rien du tout. Il est à l'ombre, comme qui dit, mais il devient. Effectivement, le centre, la bibliothèque de l'université devient un centre de quelque chose. Voilà, et c'est ça qui est étonnant. Voilà.
Ouais. Est-ce que je voulais ajouter, parce que dans l'ombre, il est l'homme de l'ombre, sur la conception du manuscrit, peut-être, non, qui Sony le dit à un moment ouvertement, c'est le négatif du livre qu'on développe ensuite dans l'imprimé. Donc c'est le diable qui a été traduit par le diable. Couillou, c'est
ça. Oui, couillou, c'est le négatif.
Ouais, donc le négatif, c'est quand même dangereux ce qui dort là. On ne sait pas si ça peut... voilà. Donc il y a peut-être de ça.
Mais il y a quelque chose que tu as dit aussi sur la lettre.
Oui, c'est ça.
Moi, je pense qu'il y a quelque chose que je voulais souligner. La lettre, c'est vraiment... dans les langues congo, la lettre se dit Mukanda. Or, Mukanda, c'est la peau. La peau, donc on pense que c'était lié les peaux tannées là qui servaient
les parchemins.
On pense que c'est lié à ça, que déjà, mais il y a aussi une dimension qui est symbolique, qui est très forte, c'est-à-dire que lorsque pour les gens qui sont plus jeunes, ils savent pas, mais quand un enfant allait à l'école, la première chose qu'on lui faisait écrire après, c'est une lettre. Il dit, attends, je vais te dicter une lettre qu'on vend. Et tu peux m'écrire la lettre là pour l'oncle qui est à Pointe-Noire ou à Brazza. Donc toi, tu as le certificat d'études. La première chose que tu dois savoir écrire, c'est la lettre. Et la lettre, on te la dicte dans la langue. Et c'est avec Sony une fois qu'on en discutait pour rire. Et on te fait relire la lettre, mais toi, tu la retraduis souvent. On te dit, bon, nous, on se porte bien ici au village, on est tout content, on t'envoie une lettre. Donc, toi, tu écris. Et donc, quand tu retraduis, on se porte bien au village. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu ne fais pas parler la lettre. Il faut que la lettre parle. C'est-à-dire, c'est ça qui est extraordinaire. Ah. C'est-à-dire, on veut que ta lettre parle.
Ah, c'est le livre qui parle.
Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire, il faut que ta lettre parle. Donc, on te dit. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit oui, mais enfin, tu as dit ça aussi, que toi, tu résumes, bon, rapidement. Oui, on se porte bien au village. Or, elle t'a dit, ah, nous ici, là, vraiment, on se porte bien. Toi, tu n'as pas dit, nous, là, vraiment, on se porte. Ça n'a pas de sens pour toi, mais. Cette intonation, cette musicalité-là qu'on veut que tu traduises, il dit, quand ton grand frère écrit, c'est pas la même chose que toi. Toi, tu dis tout de suite, on est bien. Oh, j'ai dit autre chose. Mais non, tu n'as rien dit d'autre. Mais non, c'est que tu dois faire parler la lettre. La lettre, donc, c'est quelque chose qu'on...
Faire chanter.
Voilà, faire chanter. Donc, c'est quelque chose qui doit parler. Et Sony, justement, et peut-être avec Sylvain, parce que c'est les deux... C'est un genre... Parce qu'aujourd'hui, c'est un genre qui n'existe plus avec le mail. Mais la lettre, les épistoliers, c'était deux épistoliers vraiment vrais, quoi. C'est-à-dire que Sony et donc, quand ils écrivent des lettres qui parlent. Ce n'est pas des lettres seulement comme ça, mais des lettres qui parlent, quoi. Ce n'est pas des lettres d'information.
Tu veux dire quelque chose?
Non, sur la lettre, oui, c'était un genre... Moi, je me souviens. Moi, je me souviens avoir lu des textes de Ngoïngala aussi, qui abondaient aussi dans ce genre épistolaire. Il y a même Henri Lopez qui a un roman en fait qui est carrément sur la lettre en fait. Tribalique, ouais, effectivement. Moi, à propos de Sylvain Bemba.
Non, c'est tribalique. C'est un échange comme ça.
Et moi, m'intéresse aussi beaucoup, en fait, c'est la discrétion de Sylvain. Comment est-ce qu'il parvient à se cacher, en fait, derrière des faux noms qu'il a d'ailleurs beaucoup utilisés. On l'appelait Rufus, le 24e homme.
Il a une vingtaine.
C'est une question qui m'intéresse beaucoup chez Sylvain, en fait. Sylvain Bemba, quand j'étais à Limoges, il y a une dame qui m'a parlé de lui comme un grand musicien qui lui a fait découvrir des jazzmen, qui lui a fait découvrir des musiciens que même elle, en France, qu'elle ne connaissait pas, mais que lui, au Congo, qui d'ailleurs, cette dame a toute une... elle a des correspondances qu'elle a eues avec Sylvain Bemba, qu'elle a toujours en sa possession et qu'elle dit, c'est de la matière, je ne sais pas quoi en faire, il faut s'en emparer et penser faire un projet là-dessus. Enfin, je sais pas, et cette dame, elle est à Limoges, donc voilà, c'est...
Encore un fond.
Oui. Sylvain Bemba, c'est plutôt... Moi, je suis... d'une génération qui... Moi, j'ai connu Sylvain Bemba par les bouquins et je ne l'ai pas connu de son vivant. Mais il y a beaucoup le nom de Sylvain Bemba qui est revenu dans les discussions et même dans des cercles littéraires, dans des milieux artistiques. Et... C'est le chef de la patrie, en fait. C'est plutôt le grand, le doyen de la patrie, de la fratrie. Et on a eu cette discussion là aussi ce matin. C'est que qu'est-ce qu'est devenu cette fratrie?
Et aussi la. Peut-être préciser parce que il y a un PH devant le R.
Fratrie.
Oui, mais comme ça ne s'entend pas, je me dis qu'il faudrait peut-être le préciser.
Mais toi, tu vas le préciser, ouais. Yannick.
Comment tu l'entends, PH, toi, justement
J'ai pas fini mon idée.
Vas-y, on y reviendra après.
On y reviendra après.
Une petite note.
Je perds le fil d'idée, là. Ce que j'allais dire, c'était à propos de la fratrie. En fait, pour moi, c'est aussi la métaphore de cette bibliothèque qui brûle, au fait. C'est assez fort parce que elle est assez connue comme phrase de Patéba qui dit que en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Et moi, en fait, la question de la bibliothèque qui brûle, c'est plutôt à l'endroit de cette fratrie, de l'après-fratrie, l'après Sylvain Bemba, parce que jusqu'après la mort de Sylvain Bemba, Sonny Laboutancy, il y a eu aujourd'hui des écrivains comme... Tati Loutard, bien qu'il a occupé des fonctions ministérielles au Congo, et aussi Henri Ndjombo qui ont essayé de continuer avec l'UNEAC.
Oui.
Mais aujourd'hui, la fratrie, ça... il n'y a aucun héritage, au fait, ni une maison d'édition, ni aucune trace, au fait, aujourd'hui, pour ceux qui ont... vécu dans cette période comme des auteurs, des poétesses comme Marie-Léontine Tibinda, Jean-Blaise Bilombo Samba, aujourd'hui qui ne s'expriment pas, en fait. C'est comme ils ont effacé toute cette période-là. Et du coup, pour ceux qui arrivent, la fratrie, congolaise, c'est juste des, voilà, c'est juste des mots, c'est des archives de revues qui sont restées. Voilà.
Oui, on pourrait dire ça aussi de la musique, la belle époque. Je ne sais pas si on peut voir d'autres photos de Sylvain.
Il y a une question que Van a posée, je pense que Ricardo peut répondre. Sylvain Bemba avait plusieurs identités, mais il avait plusieurs pseudonymes. Ouais. La question, pourquoi il utilisait autant de pseudonymes?
Les pseudos, disons, dans un premier temps, au début, quand c'est la semaine de la F, c'était pour se protéger de l'administration où il travaillait. Donc il ne voulait pas que les gens sachent que c'était lui. Parce que les premiers articles qu'il signe, il signe de son nom. Donc dans la semaine de la F, là, c'est comme journaliste sportif. Et malheureusement, selon les résultats, disons, du dimanche, si votre équipe a gagné et que tu viens, disons, apporter tel commentaire négatif ou ainsi de suite, dans la rue, quand on te reconnaît, bon, mais voilà, c'est lui qui a écrit telle chose et tout, bon, voilà, bon, on va lui faire la peau, bon. Bref, des petites menaces comme ça. Donc, pour éviter tout ça, il s'est dit, donc, autant signer un pseudo. Comme ça, au moins, sous le pseudo, on ne sait pas qui c'est. Je peux toujours dire que c'est pas moi. Donc, l'un des premiers pseudos, je crois, c'est le 24e homme. Ouais, le 24e homme m'explique, disons, il y a 11 joueurs de champ. Donc, 11 joueurs de part et d'autre. Donc, ça fait 22. L'arbitre, le 23e. Et le 24e, c'est celui qui commande. Et voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Et plus tard, bon, il a continué ainsi Martial de suite. Malinda. Martial Malinda, bon. Rufus. Là, c'est dans l'enfer, c'est au feu, Rufus.
Une vingtaine.
Congo Kerr.
Oui, Congo Kerr.
Belvin.
Michel Belvin, là, c'était les chroniques radiophoniques. Et puis, vers la fin, il signe maintenant, en fait, Yves Botto.
Voilà.
Yves Botto dans la semaine africaine. Donc là, c'est la dernière période, pratiquement 4-5 ans avant le décès. Bon. Il signe Yves Botto. Et le Yves Botto, d'ailleurs, a été recherché plusieurs fois parce que les gens disent, ah, vraiment, le gars qui signe Yves Botto, il fait de très, très bons articles. On aimerait le voir. Il y a des gens de la BAD même qui ont écrit à la semaine africaine pour qu'il aille faire des conférences par rapport, disons, à la teneur des articles qu'il avait. Il a dit, non, mais si j'y vais, malheureusement, donc, ils sauront qui est Yves Botto. Donc autant rester. Même, d'ailleurs,
on pensait d'ailleurs au départ que c'était le père de la Bretèche,
voilà,
qui signait, ouais. Botto, voilà. Donc
après, les gens ont dit non, non, c'est le monsieur. Et même pendant longtemps, les gens ont cru que le monsieur qui signe Yves Botto, il ne peut pas être congolais. Il ne peut pas être congolais, c'est pas possible. Donc c'est certainement l'étranger.
Il
ne
crie pas comme un congolais.
C'est là, voilà, parce qu'il il aurait signé Yves Botto.
Oui. Botto, bon, voilà.
Mais pas Botto.
Et là, c'est passé, bon, est-ce que même... On lui a même demandé d'écrire peut-être des articles politiques. Il a dit non, avec l'épisode de 72. Il vaut mieux éviter parce qu'il disait, bon, il y a Mbanza qui m'a demandé. Il dit, mais le problème, c'est quoi? Si j'écris que je dénonce, le jour où il est pris, torturé, menacé, il finira par lâcher le morceau. Donc, autant m'abstenir et ne rester que dans un domaine... On a des écrits qui sont là et des romans, et puis à travers les romans, on peut faire passer certains messages.
Oui, parce que ce que tu n'as pas dit, parce que tu l'as dit, mais elle dit que quand il correspondait avec Ange Diawara, c'était interpellé. Voilà, justement parce que c'était à la suite, parce que le réseau, je pense, c'était le réseau étudiant.
Réseau étudiant, effectivement.
C'était le réseau étudiant, c'est donc des gens qui étaient dans la classe de biologie de Pascal Issouba. Et ils ont été... En fait, il y en a un qui a été attrapé, il est torturé, et c'est là qu'il a livré. Voilà, c'est pour ça qu'il disait qu'on ne
sait
jamais.
D'ailleurs, même quand il commence avec Diawara, Diawara lui demande de prendre un pseudo. Il demande de prendre un pseudo. Et lui, il signe Akwala Atandele. Akwala Atandele, puisque quand il a été arrêté, c'est à Sylvain Bemba, alias Akwala Atandele. Et... il y a un courrier qu'on fait passer à l'Issouba également, qui souhaitait Diawara souhaitait entrer en contact avec l'Issouba. Donc, l'Issouba, c'était Monsieur Test. qui doit être, je crois, un personnage de Camus. Ouais. Donc, lui, c'est Monsieur Test, et lui, c'est Akwala Tandele. Mais malheureusement, bon, de l'autre côté, puis il y avait aussi, je crois, des professeurs français qui étaient là.
Voilà, au voilà. Lycée. Ils étaient au lycée, voilà. Qui étaient en lycée, couple.
En couple.
Voilà.
Tandele, tu peux mettre une note
à Tandele, oui, ça veut dire tôt ou tard. Voilà.
C'est une chanson.
C'est une chanson.
Ouais, c'est la première grande chanson. Voilà. Et c'est une des chansons politiques, la première chanson dite politique qui a valu l'emprisonnement de son. Adou Elenga, ouais. L'emprisonnement de son compositeur. Voilà.
Donc, pas mal de questions, voilà. Même dans la jeune romancier,
voilà.
comme Shizu Hanza, dans Jeune Nouvelle, c'est basé beaucoup sur ses chansons.
Sur ses chansons, ouais. Voilà. Non, mais moi, je suis très content parce que Ricardo, finalement, on pense que tu étais jeune, mais en fait, il t'a laissé tout. Comme on dit, il t'a donné la chose en question.
On en parlait souvent, oui. On en parlait souvent. Et puis, bon, malheureusement, avec tout ce qui a brûlé, parce qu'il y avait vraiment... Parce que pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport à Franco, c'est vrai que lui était beaucoup plus African Jazz pendant longtemps. Il était même très, très... très, très proche de... Comment on appelle ça? De Calais.
Et de Rochefort.
Et de, voilà, et de Taboulet.
Et de Nico.
Et de Nico, justement.
Parce que Nico est venu chez vous.
Qu'il a inspiré. Oui, voilà. Parce que lui jouait de la sitar. Et il a beaucoup inspiré.
Dans un groupe qui s'appelle Rumbaberos.
Los Rumbaberos. Los Rumbaberos. Rumbaberos. Mais avant, il a commencé par jouer de l'accordéon. Parce que le grand-père en jouait, donc lui aussi a joué de l'accordéon. Et après, il s'est mis à la sitar. Donc, bon, ça, on ne pourra pas retrouver parce qu'il y avait un projet de biographie sur Franco.
Oui, voilà. Ça y est, je sais.
Projet de biographie qu'il avait déjà commencé à écrire. Bon, donc tout ça est parti en fumée.
Parce que Franco, quand ils sont venus, ils ont été résidents de Macedo, ouais. Le bar Macedo, on dit, mais c'est Macedo, on dit ça, Baza, qui était pas loin de chez vous.
C'était pas très loin.
Et c'est là, en fait, la résidence, quand Loke Jazz venait à Baza, leur résidence, ils prenaient résidence à Macedo. Ouais. Et donc c'était assez, parce que moi j'ai connu la première rencontre que je fais de Sylvain, c'est en tant que musicien. Je suis en sixième dans une institution catholique, le séminaire de Mbamou, et à la fin de l'année, le centre culturel français faisait des tournées d'école, donc on vient faire une tournée chez nous avec des jeux, machin, et un groupe qui joue. Et ce groupe c'est Los Rumbaberos. Et lui, il jouait justement
la
sitar et la guitare hawaïenne. Là. Et donc, d'ailleurs, quand on a fait l'interview avec Olivier, qui a donné lieu à son passage dans le film, il me dit à un moment donné, mais à propos de cette guitare hawaïenne, qu'il y a Nico. Il me dit, ah, quand même, les musiciens à Kinshasa, il y a quelque chose de plus que nous. C'est que vraiment, c'est des vrais musiciens. Quand ils bossent, quoi. Il dit, un jour, je reçois Nico ici qui dit, mais donne-moi des petites touches que je puisse jouer la guitare hawaïenne. Il n'a pas voulu décoller tant qu'il n'avait pas sorti un son. Alors toi, tu devais être très jeune. Et donc, il est reparti tout content. Et le disque d'après de l'African Jazz, c'était... Il a bossé donc tout le temps pour pouvoir être capable de la jouer, quoi. C'était extraordinaire.
Tu laisses la salle. Puis je sais pas. Oui, puisque tu parlais de Franco et de la fameuse position Franco au Loke Jazz. Et à propos de bibliothèque, je sais pas. Mais retenons quand même que. D'une part, parce qu'il y a une sorte de spécialisation, enfin plus ou moins, entre une rive droite, Brazzaville, plutôt littéraire, et une rive gauche, évidemment, quinoise, plus à la musique. Et Sony disait, enfin moi j'aurais tenu ça, et c'est pas uniquement qu'une boutade, je crois, puisqu'il disait que Franco, c'est notre Molière, et... Taboulaï Rochereau, c'est notre Verlaine. Bon, je laisse mériterait pas mal de commentaires. Oui, peut-être recevoir des... De la... Oui.
Merci pour... Vous disiez à l'informateur, alors moi, je voulais un peu faire le parallèle entre le film et ce que vous venez de dire. Et la première remarque, c'est lui que, bon, il est vrai que je ne comprends pas la langue, mais une tradition en bas. En fait, je ne vois pas un peu, cet engagement-là à travers la musique. En tout cas, pour ma littérature, par exemple, c'est arrivé, je pense même si c'est une lettre aussi. Il y a sensiblement mal, comme vous le dites. Il y a un peu un côté, je dirais, engagement politique, que je n'ai pas vu à travers le film. Alors, le film, je dirais plutôt que. Alors, je vous ai le rythme, les sonorités, et c'est très local et c'est beau. La question que je vous pose en tant que jeune Africain, c'est que pourquoi, bon, peut-être c'est une fois que c'est moi qui ne connais pas trop, pourquoi en fait cette musique-là, la rumba, ne s'est pas, n'a pas traversé les frontières pour venir au Sénégal, pour faire l'Afrique, alors qu'aujourd'hui, dans nos télévisions, il y a la culture américaine, la culture chinoise, et les musulmans qui nous envahissent. Ça ne nous dit pas trop, alors que moi, en tant que jeune sénégalais, quand je suis dans ce film-là avec les rythmes parmi les sonorités, j'ai tendance à remuer la jambe à danser avec un son. Alors voilà, c'est un peu une question que je me pose, en tout cas. Ça ne traverse pas, disons, les frontières pour faire un peu le continent. Alors, autre chose, c'est que. Bon, il faut parler comme de ça. Quand je vois, en tout cas, les quartiers, les rues, sont locales, c'est beau. Et à mon sens, ça doit rester, en tout cas, ça doit. On doit rester comme ça, ça ne doit pas changer, on ne doit pas aller vers des constructions à l'européenne. Pour moi, c'est un peu ce qui fait l'identité du Congo et de l'Afrique de façon générale. Donc voilà, c'est un peu le commentaire que je voulais faire.
Ah oui.
Ouais. Est-ce que vous connaissez l'orchestre Baobab?
Oui, après.
Ah, vous avez entendu, mais vous le connaissez. Si l'orchestre, vous voyez, l'orchestre Baobab, c'est vraiment le grand orchestre de l'histoire de la musique sénégalaise moderne commence avec l'orchestre Baobab. Voilà, qui est quand même. Les jeunes Sénégalais, ils ne connaissent pas l'orchestre. Donc imaginez qu'ils connaissent la musique congolaise. Or, la musique congolaise a été vraiment. C'est la seule musique enregistrée dans les années 50, 60, 70. Et les seuls à donner la réplique, c'était les anglophones, c'est-à-dire Fela, d'un côté, et les Ghanéens de l'autre. Parce qu'ils avaient justement le I Love depuis longtemps. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui se... Deuxièmement, on pense toujours que la musique congolaise, c'est que la danse et tout. Mais la danse, c'est très complexe. Il y a Sylvain Bemba qui dit dans le texte quelque chose, c'est la formation des villes en Afrique subsaharienne. La formation de ces villes-là, c'est que c'est... En plus, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de la colonisation belge de l'autre côté et du chemin de fer de l'autre, à Brazzaville. C'est-à-dire, c'est une histoire très difficile dans laquelle les villes ont été des lieux de célibataires, c'est-à-dire de violence, mais aussi de célibataires. C'est-à-dire que les colons, c'était des militaires, ils n'étaient pas mariés, ils ne venaient pas avec leurs femmes. Les,
les missionnaires, c'était des prêtres catholiques pas mariés, les religieuses pas mariées et les travailleurs pas mariés. Donc, c'est que des célibataires. Donc, c'est dans ce climat étrange-là que doit naître quelque chose qui est pourtant aussi assez violent. Et pour ça, la musique n'est pas politique dans un premier temps, mais elle le devient parce qu'elle devient subversive. Mais elle devient subversive de deux choses, c'est-à-dire de l'ordre villageois qu'ils viennent de quitter, puisqu'ils vont commencer à avoir, Sylvain Bemba en parle, l'amour devient quelque chose de... Parce qu'au village, c'était très simple, tu grandis, tu, on épouse une femme pour toi, et tu fais des enfants et tout. Or là, tu dois rencontrer quelqu'un, tu dois lui exprimer quelque chose. Donc même la chanson devient subversive en soi, c'est-à-dire de l'ordre d'imager. Mais en même temps, elle devient aussi, comme dans le blues aux États-Unis, décrire les conditions dans lesquelles on travaille. Ça devient, sans dire de la méchanceté, je trime ici, tu es au village là-bas, mais moi, chaque jour, je vais casser des pierres, c'est suffit. Toi, tu cherches des problèmes. Ouais, tout de suite, on te... Donc, attendez-les, c'est ça aussi. Tout simplement, il dit, ah, un jour, j'espère qu'un jour, ça changera. Eh bien, on comprend tout de suite que ça... Donc, on n'a pas... J'ai été à une thèse une fois au Gabon, où l'étudiant disait, les Congolais, c'est pas méchant, c'est pas comme Fela, c'est... Mais non, tout est subversif, quelquefois, chez les Congolais. Et que, si vous traduisez le texte mot à mot, il n'y a rien. Tailleur, il y a une chanson de Franco qui s'appelle Tailleur. Voilà, le propriétaire a repris
l'aiguille.
Maintenant, tu vas coudre avec quoi? Personne. Mais bien sûr, c'est les ouvriers savent, par exemple, que les petits ouvriers qui s'installent là, les artisans plutôt, maçons, peintres, il n'a rien. Il faut. Donc, il va emprunter chez un grand frère. Ah, donne-moi ta truelle et tout ça, j'ai un petit chantier. Donc, un couturier va chercher chez le grand frère, donne-moi ta machine, je vais coudre quelque chose et un pantalon. Voilà. Et donc, le propriétaire, à un moment donné, il reprend sa chose. Et ça, c'est... Franco va faire une chanson dessus. Et mais tous les Congolais savent, tous, que cette chanson ne parle pas d'un tailleur. Elle parle de Mobutu, et plutôt de Kingo Wadondo, qui s'est fait virer en tant que procureur de la République par Mobutu, qui lui a dit, écoute, maintenant t'as trop... Maintenant, toute la chanson, c'est maintenant coupe comme tu coupais là, c'est-à-dire tranche, ça veut dire tranche. Il était procureur de la République, et là, il était là-bas, il tranchait les choses et tout. Et l'autre lui dit, tranche maintenant comme tu dis, mais tranche et couper, c'est la même chose, c'est comme chez le couturier. Coupe maintenant comme tu faisais avant. Voilà. Donc le propriétaire a repris son aiguille. Maintenant, tu vas coudre avec quoi? Tu vois, pourtant, c'est une chanson qui a... Si vraiment, dans je ne sais pas, 50 ans, on va dire, mais qu'est-ce qu'elle disait, cette chanson? Tranche comme tu tranchais avant ou coupe comme tu coupes avant, ça ne veut rien dire. Et pourtant, cette chanson était très subversive. Donc, c'est ça que je voulais dire. C'est toujours le décalage qu'il y a entre justement ce qu'on écoute dans le texte et la situation réelle qu'elle décrit. Et le musicien peut jouer là-dessus. Et dans la fratrie, je pense, pour en revenir à notre affaire de fratrie, c'était ça aussi, la subtilité. C'était ça, la subtilité. Il y a des textes qui étaient... Et la fratrie, c'était vraiment la grande couverture qui permet... Parce qu'on ne le dit pas assez, mais dans la fratrie, c'était quand même ce qu'on appelle la fratrie. Il y a quand même Tati Loutar qui était ministre. Il y avait quand même Lopez qui était premier ministre. Il y avait Sylvain Bemba, lui-même, qui avait été ministre, même s'il a été après le Mercé. Donc, vous voyez bien, et tous les textes congolais, vous voyez qu'ils sont, ils font pas de cadeaux au pouvoir, sous des prétextes, machin. Donc, on faisait toujours. Et donc, eux, ils avaient pris la responsabilité de faire leur propre censure. Donc,
quand tu arrivais, par exemple, avec un texte, tu le donnais à Sylvain Bamba, il le lisait et il dit, oh, mais là, on voit.
Là, tu as merdé.
Là, on voit qui c'est quand même. Tu ne peux pas donner son nom. Comme ça. Par exemple, tu as dit Babin, mais tout le monde va voir que c'est Bamba à l'inverse. Donc, on ne va pas mettre Babin, on va mettre Babinga, par exemple. Donc, d'un seul coup, c'est le nom. Il n'est plus celui-là où on va rajouter une voyelle au Bimb. Alors, ça peut être en Camerounais, ça se passe là-bas loin, mais tout le monde sait que ça se passe à Brazzaville. Donc, c'est cette subtilité-là qu'ils avaient pour se protéger un peu. Et donc, c'est ça que je voulais dire.
Je veux rajouter juste là, dans l'occasion, ce que je voulais dire tout à l'heure sur le PH de fratrie. Ça ne s'écrit pas avec un F. Pourquoi ils ont PH? Parce que pour reprendre. Pour dire que ce n'est pas une fraternité de sang, au sens où on pourrait le penser, ou ça vient de la philo, qui est l'amour de la sagesse, donc c'est ceux qui aiment, et donc ça c'est important, et celui de la philosophie. Parce qu'il faut voir aussi cette fratrie, elle a une fonction politique, hein, je crois, on peut appeler une sorte de république des lettres, au sens où on se protégeait les uns les autres, quand même, on savait, il y avait de la censure, voilà ce que vient d'expliquer. Je pense que c'était une forme d'isolat où on pouvait faire passer des messages, justement, plus ou moins satiriques et cryptés, quoi.
Voilà. Et d'ailleurs, il y a Kaya Makele qui raconte une histoire, parce que lui, il est jeune écrivain au début, il a la fougue, il écrit, il sort un texte, et tout de suite, les gens veulent l'arrêter. C'est un blasphème, c'est pas possible. Et Tati Luta dit, je veux m'en occuper. Et puis, quelque temps après, il voit les gars de la censure. Il dit, je voulais engueuler comme jamais. Je pense qu'il reprendra plus. Alors que ça s'était passé différemment. Il avait fait venir des petits, quand même. Toi, là, tu exagères. Est-ce que tu peux dire Ngwabi dedans? C'est pas bon. Allez, barre-nous, ça change de nom. C'est tout ce qu'on lui a dit. Il a changé de nom, le texte est passé comme une lettre à la poste. Donc, tu vois, c'était ça aussi, la fratrie, quoi. C'est-à-dire que c'est... Mais lui-même, il le raconte mieux, mais il avait raconté une fois. Et d'ailleurs, quand il venait aux répétitions de Sony, cette censure-là, parce qu'il disait, on vient voir votre pièce, là, parce qu'on nous dit pas mal de choses. Et d'ailleurs, le gars qu'on envoyait spécialement, qui était spécialiste de théâtre, il aimait bien picoler, donc Sony lui réservait un peu de bière, et donc il picolait. Pendant ce temps, on tournait la même scène qui sur le plateau. Sony disait, reprenez-moi ça, c'est pas bien, et tout ça. Dès qu'il était un peu bourré, qu'il était parti, bon, il reprenait les répétitions. Donc c'était un peu... Mais pour dire que la fratrie, c'était vraiment quelque chose comme si c'était choisi, et c'est pour répondre à Van. Il y a ici trois choses assez claires. Je pense qu'au début, les écrivains congolais, la première génération, Patrice Loni, Nzalabaka, Mwangassa et Manga, ils ont écrit des choses comme ça assez spontanément. Mais ils ont eu des problèmes aussi dans la dénonciation, dans les trucs. Et là, justement, comme beaucoup d'entre eux voulaient se protéger, ils ont créé cette... Mais elle n'était pas formelle. C'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être l'Union nationale des écrivains et artistes congolais, l'UNEAC, mais cette fratrie-là, tout en étant dans l'UNEAC, les gens y étaient à titre individuel, c'était une sorte de communauté vraiment. Mais la place et cette communauté-là, justement, cette République des lettres, n'a existé que grâce à Sylvain. Moi, je pense que grâce à Sylvain. Sylvain, c'était vraiment le fédérateur de ça. Le grand frère de... C'est-à-dire, quand Sony, on parle de Sony, qui a envoyé ses manuscrits, il attendait l'approbation du grand frère, c'est-à-dire de celui qui a le regard pour lire au-delà de ce que j'ai écrit. C'est pour ça que la place de Sylvain, elle est vraiment importante dans la fratrie à cause de ça. C'est-à-dire que, non seulement parce qu'il était capable de dire si c'était bon, si c'était ceci, il pouvait corriger tout ça... mais aussi parce que il fédérait autour. Il n'était pas dans un rapport de compétition avec les autres. Parce que c'est ça aussi qu'on trouve souvent chez les écrivains congolais, ils essaient de se positionner. Dans la fratrie, ils ne se positionnaient pas. Chacun avait son itinéraire, mais à l'intérieur de cet itinéraire-là, il y avait une espèce d'ecclésia, une espèce d'ensemble, de choses dans lesquelles une assemblée qui n'était pas formalisée, parce que chacun avait quasiment son rapport singulier avec Sylvain. C'est-à-dire, Sony l'avait, Chikaya l'avait, et plutôt Tati Loutard l'avait, et Lopez aussi l'avait, quelque part. Mais ils n'étaient pas... Il n'y avait pas une...
Il y avait une petite... Là, vous avez un document qu'on nous a passé, qui est un ancien de la fratrie.
Je voulais juste aussi répondre à la question.
Oui,
excusez-moi. Au fait, sur l'engagement, en fait, pour juste compléter ce qu'a dit Yengo, qui était très intéressante, qu'effectivement, il y a eu des musiciens qui ont même été assassinés du fait même de leur engagement. À Brazzaville, on a Franklin Bukaka aussi, lui a pendu des œuvres assez politiques et engagées. Tu trouveras l'album Les Immortels. Enfin, il y a aussi Franco et plein d'autres artistes. Et sur la question de le fait que la musique congolaise n'a pas traversé assez des frontières, qu'on ne la connaît pas assez, bon, je dirais que c'est faux parce que aujourd'hui, la musique congolaise moderne, ça, c'est la mère même de la musique africaine, en fait. Parce que aujourd'hui, il y a des genres qui sont un peu à la mode, un peu comme le coupé-décalé, zouglou. C'est des dérivés, au fait, de la rumba, de la musique congolaise. T'as même Arafat, à son âme, qui lui avoue s'être inspiré de Extra Musica, de Bill Clinton, même Sylvain Bemba le raconte bien aussi dans le film, dans le documentaire qu'on a vu, c'est que c'est une musique qui est faite un peu de toutes les sauces, au fait. On retrouve de la musique caribéenne, on retrouve de la musique cubaine, la musique traditionnelle. Et ce que l'on remarque aussi, c'est que c'est plutôt dans des bars, au fait, que cette musique se développe. C'est pas souvent dans des concerts comme on verrait ici en France ou ailleurs en Europe. C'est plutôt dans des bars, et il y a eu des bars assez connus comme ça à Brazzaville. Moi, je me souviens Macedo, comme on a dit, Feignant, Vogue, où au fait même ces artistes et musiciens n'avaient pas d'instruments de musique. Et souvent, c'était des propriétaires de ces bars-là qui, eux, mettaient à disposition des batteries, des guitares. Et donc, du coup, ils venaient pour, en même temps pour jouer à la guitare. Et comme on a vu avec l'Empire Bakuba, avec Pépé Calais. Et ce qui est très intéressant aussi, ce que je voulais dire, ce que j'ai vu aussi dans le film, c'est aussi les studios d'enregistrement. Parce que ça, c'est important aussi. Au début, je ne sais pas, ce sont 18 tours.
Oui, le début.
Tout au début, dans les archives, ce sont 18 tours, après 45 tours. Et les premiers studios d'enregistrement, ça, c'est important aussi pour comprendre la musique congolaise. Il y a eu Patou, M. Patou, qui lui avait un studio.
C'est le premier studio d'enregistrement.
À Brazza, oui. À Brazza. Donc voilà, je pense que l'engagement, c'est au fait, c'est difficile de comprendre la subversion quand tu traduis du lingala au français, au fait, parce que on l'a expliqué là avec Tonga, et on a des milliers d'autres chansons ou avec Wendo Colossal. Il y a même des artistes qui sont exilés aujourd'hui. Enfin, il y a Boketsu qu'on a vu aujourd'hui, qui est un opposant. Enfin, aujourd'hui, c'est même le patron même de la résistance des combattants en Europe qui a même fait tapage pour empêcher que Fally Ipupa puisse se produire la salle Accor à ex-Bercy. Ouais. Donc on l'a vu là, il était tout jeune là dans son orchestre. C'est fou.
Mais il y a quelque chose, je pensais, sur lequel vous alliez réagir. C'est à un moment donné, on monte trois générations des tout petits qui sont en train de jouer des caisses. La génération de pompons premier là, voilà, suit des versions pompons premier, mais ils jouent de la. Moi, j'étais l'harmonica. Moi, je veux vous dire qu'on a été sciés complètement quand on les a vus. C'est-à-dire que nous, on était allés filmer les soudés, les grands, donc Boketsu, et les petits disent, mais vous ne pouvez pas les filmer les grands sans nous filmer, nous, c'est pas possible. Donc, nous voilà embarqués pour aller filmer ces jeunes-là, les tout-petits-là, et c'est eux qui nous ont, je pense, ça a été, parce que c'était des jeunes-là, des superstars déjà du quartier, parce que entre les fans, le fan club qui les suivent, qui veulent rentrer, tout ça, et eux qui nous animaient juste devant nous, c'était, moi j'avais trouvé ça vraiment, c'est un des moments les plus, je sais pas Olivier ce que t'en penses, mais c'était un moment les plus, vraiment j'étais vraiment, on était aux anges, quoi, de voir comment ils nous avaient improvisé ce petit concert-là, parce qu'ils sont venus nous chercher pour qu'on les filme, hein, c'est-à-dire, c'est pas, filmez pas que les grands, nous aussi on est là, quoi, c'est pas possible. Donc du coup, Billon qui était avec nous, qui était caméraman, on est tous, on dit on va aller voir, bon, on va faire des images comme ça pour... Il leur a fait des trucs, mais on s'est rendu compte que c'était un vrai petit concert, quoi, parce que il a l'harmonica, un batteur, mais vraiment avec trois fois rien, et puis des gens qui jouaient des... C'est juste des petits cartons ou des je sais pas quoi, des... Et c'était, moi, c'était un des meilleurs souvenirs que j'ai de l'enregistrement qu'on avait fait à Kinshasa. Voilà. On avait d'autres choses qu'on avait fait, notamment, mais on n'avait pas pu les remettre dans le film. Bon, à un moment donné, bon, parce que l'interview qu'on fait de Papa Wemba, on l'a fait après le tournage. C'est-à-dire, on l'a fait sur Paris. Donc, l'interview qu'on a, c'est une interview qu'il a faite. Il raconte, parce qu'il n'a pas toute l'histoire de la musique congolaise, il est là parce qu'on est séparés, parce que les premiers à introduire la batterie, ce n'est pas les jeunes. La batterie est introduite par les bantous de la capitale, et c'est Ricky qui jouait. Je voulais le
ça, on va rentrer dans les débats.
Ouais, dans les débats.
Entre qui a commencé.
Ouais, voilà. Non, parce qu'il y a une chanson, il y a une chanson de Franco, parce que Loke Jazz était un... Les Bantous étaient formés en partie par ceux qui étaient partis de Kinshasa, de Loke Jazz. Et donc, les Edo qui viennent mourir là, ouais. Et tout. Et donc, à un moment donné, il y a une chanson de Franco, parce que les groupes s'invectivent quelquefois. On appelle ça les Mwakela chez nous. Et donc, ils s'invectivent. Et il y a une chanson de Franco dans laquelle il injurie les Bantous. Il dit orchestre Manzanza, parce qu'il joue. C'est-à-dire qu'un orchestre de Manzanza, c'est les boîtes, quoi, des concerts. Il dit c'est...
Non, je voulais juste signaler qu'on fait défiler quelques photos,
ouais,
du fond Nganga Konga qui sont sur Iman maintenant, à Saint-Clair. Des photos de Nganga Konga, qui est journaliste, qui fait partie de la fratrie, et qui est toujours désireux de faire quelque chose pour Sylvain, ouais, qu'on le publie. Donc c'est une demande que je relaie ici.
Donc là,
ça, c'est la Fondation Lanec, comme quoi après, au moment de la chute du Parti Unique, et il y a eu une association, moi je suis arrivé à ce moment-là, 90, voilà, et là vous avez ton gars-là, enfin bon, il a mis les légendes, hein, il a changé les photos, donc voilà, c'est quelques images d'ambiance des années 90, mais avant aussi.
Voilà, là il y a Sylvain Bamba, passé en Bukiba.
Tout ça est retrouvé sur Iman, il y a des collections. On a du mal à trier les photos avec Claire, mais on a mis un grand lot à à Sylvain, un peu à Sony aussi, et du Rokado Zulu. Voilà, vous avez trouvé le détail des personnalités. Sanga Konga étant journaliste et écrivain aussi à 16 heures.
Ah, ça, c'est une répétition de Rokado.
Rokado.
Oui.
Voilà.
Et c'est Nicole Bissi qui m'a dit que c'était. C'était Kim Pavita.
Il y a Eric.
Parce qu'il ne mentionne pas la pièce.
Ouais.
Paul Milongo.
Bon, Dido m'a donné le nom des acteurs. Ah, il m'a fait le casting.
Voilà. Et j'ai constaté qu'il n'y a que les Sénégalais qui parlent ici dans cette salle. Est-ce que les Français...
Les autres sont bâillonnés là-bas.
Est-ce que le nom de Kim Pavita que Nicolas a pris dans ce plan-là, Kim Pavita, ça me rappelle une pièce de Bernard Mabille.
Oui.
Oui, oui.
Oui, oui, c'est la même héroïne en fait, c'est, bien sûr.
C'est la même héroïne, oui.
C'est la Jeanne d'Arc de Congo. Ou...
Donna Béatrice. Donna.
Dont on a retrouvé quelques feuillets, mais il y a des pièces comme ça, avec titre et sans texte. Bon.
Peut-être qu'il y a une version audio qu'on pourra peut-être reprendre, mais on a retrouvé quelques feuillets de la pièce, quoi. De Soli, pas de Bernardetti.
Bon, moi je ne sais pas s'il y a des questions. Une question au fond de la salle, là, non? Non?
Madame Péguini.
Il n'y a pas un journaliste qui n'a pas compris quelque chose?
Il n'y a pas. Madame Péguini, vous n'avez pas une question?
Non, vous nous avez demandé de quelle forme de réponse, monsieur Nengo, que moi je suis aux hommes. Hein, beaucoup aussi. Bravo.
Oui, mais les gens de Paris 8 ont quelquefois des questions quand même. Même qu'on a beau imaginer, on ne peut pas tomber sur ça. Voilà. Il y avait une certaine Madame Riffard qui devait poser une question, mais je n'ai pas osé la lui demander.
Bon.
Bon, ben...
Ouais. Ah.
En fait, la rumeur au départ, c'est populaire, ça rendait le. Enfin, dans le film, j'avais l'impression que c'était plutôt les petits travailleurs qui chantaient la rumba, et après, j'avais l'impression qu'avec les sapeurs, ça devenait quelque chose de beaucoup plus concentré sur les gens plus aisés, mais je ne sais pas si c'est vraiment moi qui veux voir une trajectoire sociale dans l'évolution historique de la Rumba ou si c'est quelque chose qui est pertinent. Hein.
Non, à première vue, non, c'est l'espace. C'est-à-dire la question qu'on a essayé de traiter là et qui est d'ailleurs assez visible dans le film, c'est la question de l'espace urbain.
Ouais.
C'est une musique. Les musiques africaines qu'on entend, ce sont des musiques. Les musiques traditionnelles, ça, c'est l'okora. Hein, il faut laisser ça à l'okora. Mais les musiques qu'on entend, enregistrées, ce sont des musiques urbaines. Et en leur qualité de musique urbaine, ce sont des musiques qui sont à la fois des musiques de symbiose, c'est-à-dire des apports divers et tout, et des assemblages, avec quelquefois des figures dominantes. L'afrobeat, par exemple, c'est le cas, c'est Fela. Chez nous, c'est deux entités, deux grands courants qui vont... Il y a eu trois courants au départ, hein, mais il y a... C'est l'espace urbain. L'espace urbain. Et donc, qui dit espace urbain, dit plurit... Je dirais beaucoup de communautés d'abord.
C'est pour ça qu'elle n'appartient pas à une communauté, il n'y a pas un truc ethnique derrière. Voilà. Et puisque Sylvain Bemba le dit bien, il y a des coastmen qui arrivent, qui vont nous influencer. C'est-à-dire que les Ghanéens qui viennent travailler là, les Ghanéens, les Dahoméens, les Togolais. Donc, ils influencent. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas, mais que lui va dire à la suite dans l'interview, c'est qu'il y a aussi la dimension. Parce que nous, on a des Portugais, les colonies portugaises à côté, c'est-à-dire le Cabedal, l'Angola. Et beaucoup de musiciens sont, par exemple, ce sont les groupes Bakongo qui sont au nord de l'Angola, c'est-à-dire qui sont frontaliers tout de suite avec la RDC. Donc, pour fuir les conditions de la colonisation portugaise, ils descendaient à Kinshasa. Donc, dans la première génération des musiciens, il y a l'effet dont les noms vont revenir. J'en avais un là tout à l'heure.
D'Oliveira,
qui était des, donc c'est eux qui jouaient. Parce qu'il y a une spécificité de la colonisation belge qui était très, d'abord, c'est une colonisation quasiment religieuse. La musique c'était vraiment le démon. C'est pour ça que les premiers musiciens qu'on voit arriver sur le territoire, je peux dire, de la musique, ce ne sont pas des gens de l'espace quinois. Ce sont soit des Congolais, c'est le cas d'un musicien qui était très célèbre à l'époque dans les années 50, qui s'appelle Paul Kamba. Paul Kamba, tu vois, nous on l'appelle Paul Kamba. Et c'est vraiment le qui avait, c'était une superstar. Et c'est lui qui a inspiré ce que le vieux philo, comme on l'appelait, racontait. C'est lui qui a amené les patengue, les machins, tous les groupes et qui chantait en lingala. Ça, c'est la première grande chose qui est vraiment... Nous, il y a un musicien qui vient vraiment bouleverser l'espace. De l'autre côté, c'est Wendo. Wendo est marin. Il travaille sur les bateaux. Et il joue de la musique, il a appris un peu de musique par-ci, par-là, et il joue. Et seulement, comme il traverse toutes ces zones, et il adore sa chanson, c'est celle-là, il dit, on entend parler de moi partout, à Kisangani, partout, je suis là, quoi. Et lui, il va faire une chanson dans les années 50, bien avant, au sortir de la guerre, qui s'appelle Marie-Louise, qui est enregistrée. Et Marie-Louise, il paraît que c'est un tel succès que la vraie Marie-Louise, qui serait une femme décédée, morte, qui était dans le cimetière à côté, se réveillait chaque nuit pour venir danser. Au point que la chanson a été interdite parce qu'elle réveillait les Maccabées. Donc voilà, donc, la chanson Marie-Louise était devenue... Donc quand je parlais tout à l'heure que même les chansons comme Marie-Louise...
C'est pas cette chanson qui est au début d'un roman de Chikaya,
oui, oui, oui,
qui ouvre le roman. Ah, c'était au temps où Marie-Louise, on chantait Marie-Louise. Oui.
Marie-Louise se réveille pour venir danser sur sa musique. Donc, une musique qui réveille les morts. On a la même, si vous avez étudié l'histoire du blues, vous savez que l'histoire du blues, c'est Robert Johnson qui signe un pacte avec le diable à un carrefour. On a toujours des histoires de démons ou de diables ou de machins. Voilà, c'est vraiment Halloween. C'est extraordinaire. Donc, c'est ça qui va faire que la musique va quasiment être interdite à Kinshasa, ou moins les chanteurs. Et les gens qui ont trouvé une formule, et c'est ça aussi qui va faire le succès de cette musique, c'est une famille, je ne sais pas, deux Grecs qui étaient là, les papas Dimitriou, voilà, qui vont se dire, bon, toute cette musique qui circule là, si on pouvait la graver. Donc, ils vont essayer de trouver un moment et un truc pour graver la musique. Donc, ils vont créer les deux maisons de disques, Ngoma et Okapi. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les gens veulent s'entendre. Donc, il enregistre les deux Oliveira, on enregistre les gens comme ça. Puis après, arrive une génération beaucoup plus cosmopolite qui commence à prendre par-ci, par-là et tout. Donc, les deux qui vont se démarquer, donc, dans ces années 50-là, c'est Loke Jazz, qui est en partie composé de Congolais, de Brazza. C'est leur orchestre, si vous voulez. Et l'African Jazz, qui dont le grand, c'était le grand Calais, celui qu'on appelle, c'était Cabasélé, mais on abrégeait Calais. Voilà, le grand Cabasélé. Et c'est lui qui a vraiment été le premier à faire exploser la star moderne, si on peut dire, c'est lui. C'est
vraiment. Qui a écrit la chanson Statia.
Voilà. Voilà.
Celui qui forme la thématique musicale du bal de Dinga.
Voilà.
Puisqu'on
voilà.
passe quand même à la littérature, Machikaye ou Tamsi.
Voilà. Et c'est lui que, finalement, quand ils vont signer en 59, ils vont à la table ronde en 59 pour l'indépendance du Congo belge. Donc on se dit, mais ces gens qui viennent ici, il faut bien qu'ils aient la musique. Et donc on fait venir les musiciens, donc le Grand Calais, qui lui, n'étant pas, va solliciter des musiciens de l'Oké Jazz en disant, est-ce qu'on ne peut pas tous partir? Et Franco dit, non, 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 moi je ne mange pas de ce pain-là. Et donc il y en a un qui rentre dans le circuit, il s'appelle... Victor Longomba, Vicky Longomba, donc c'est lui qui va partir avec eux, donc et c'est là-bas qu'ils vont créer ce qui est devenu un hymne quasiment de l'indépendance africaine,
indépendance. Et cosmopolite, parce qu'en même temps il y a Manu Dibango.
Voilà, et Manu Dibango qui en ce moment-là est en Belgique d'ailleurs. Manu est en Belgique parce qu'il a quitté la France. On lui dit, on a besoin d'un sax, et il fait un peu le sax dedans. Et puis après, il va repartir à Kinshasa, parce qu'il sent qu'il a besoin de ça. Donc il va à Kinshasa, et il va d'ailleurs faire un...
C'est un peu dans le film.
Ouais. Oui, on le voit.
Mais où est là, il y a deux saxophonistes, sur droite, c'est Manu Dibango.
Ah oui, d'accord.
Alors, et donc il va revenir, il va à Kinshasa... Et d'ailleurs, à Kinshasa, il va créer un disque. Moi, je l'avais parce que c'est mon frère aîné qui l'avait acheté. Un twist. Il va faire un twist qui vont être enregistrés, d'ailleurs. Un twist de l'imité à Kalina, de la cité à la pergola. On congonien, on danse le twist à Léopoldville. Ça, si je la connaissais parce que j'étais en cinquième, donc j'ai encore le moment. Donc ça, c'est pour montrer que c'est... Voilà, c'était... C'est...
Pour compléter ce que vous disiez, dans la deuxième partie de votre question, la France à la Sapche, vous dites le Dieu qui t'inguive vous bénit tous les jours parce que les sapeurs ne sont pas riches. Et vous dites que c'est une réussite sociale.
Non, c'est parce que c'est des hommes qui ont de l'argent, du coup, il y a une femme qui va pouvoir se mettre à côté. C'était pour ça.
Oui, mais là, on est encore dans la catégorie culturelle. Mais ce qui était étonnant, c'est qu'effectivement, les sapeurs, c'est ça, ils donnent cette image de richesse. Et c'est un leurre social pour eux.
Ouais, ouais.
C'est leur fierté.
Ouais. Ouais. Et aussi, on a vu Rafa Bounzeki, qui lui était vraiment aussi, qui représentait un peu ça, le père de la sapologie, un peu comme Papa Wemba.
Que Papa Wemba va reprendre.
Ouais, va reprendre, effectivement.
Parce que eux, ils sortaient de l'authenticité, ils n'avaient pas droit à la sape, en fait. C'était ça. C'est pour ça qu'ils ont plus le train en marche, mais comme ils sont plus nombreux. Donc, du coup.
Ouais, ça va être pris.
Ça fait. Mais sinon, c'est pas. Les sapeurs, c'est pas eux, vraiment, quoi. C'est en courant, d'ailleurs, c'est pour ça que le livre, l'un des plus beaux livres qu'on a écrit sur la SAP, c'est quand même celui de Justin Gandoulou, c'est-à-dire que de Bakongo, de Paris à Bakongo, ou de Bakongo à Paris, ou je ne sais pas quoi.
Oui.
L'histoire de la SAP.
Je
ne
vois pas.
Il y a aussi
Alain Mancou
qui, je pense, dans ses romans, a fait beaucoup
de gens
à la SAP.
Oui, oui, oui.
Non, c'est un petit sapeur. C'est un petit sapeur.
Ça tourne un peu folklore. Bon, moi, j'aurais juste posé une question pour pas terminer sur la sape, quand même, parce que il y a aussi un film de David Pierre Fila sur la rumba aussi, où la sape est importante. Bon, moi, je ne veux pas revenir là-dessus. Si on venait à la littérature, vous avez interviewé Simaro dit le poète.
Lutumba.
Oui, c'est bien le même.
Oui, c'est ça.
Simaro. Pourquoi? Patrice.
Quoi ?
Ben, j'aurais qu'on finisse quand même un peu sur...
Ah, oui, parce que je pense que...
Pourquoi ?
L'un des plus beaux paroliers en lingala de la chanson congolaise, c'est vraiment Simaro. Ses textes sont d'une poésie telle que on carrément l'a qualifié de poète. Et lui-même, il s'est
Sur les pochettes de disques.
Les pochettes de disques qu'il a fini par mettre le poète. C'est-à-dire, ces textes, c'est quelque chose de... Je ne sais pas comment dire. Parce que même dans l'interview, Olivier, si tu te rappelles, dans l'interview, à un moment donné, il me dit, puisque c'est moi qui fais l'interview, il me dit, il y a des choses que je ne comprends pas moi-même. Quand j'ai entendu mon nom à la conférence nationale de Brazzaville, on parle de moi en me citant, comme on citerait un texte. Mm-hmm. Ouais, comme dirait le poète, il dit, c'est quelqu'un qui dit, comme dirait le poète Simaro, Monokonanganganga. Il dit, ma bouche est prophétique. Voilà, ma bouche est en... Mais comme dirait le... Et lui, il est là, d'un seul coup, il se découvre auteur. C'est-à-dire, c'est pas seulement musicien, qu'il soit artiste, mais qu'il est porteur de quelque chose. Et ça le frappe. Et il me dit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui... Mais j'entends mon nom comme... On me cite comme... Comme dirait un tel, quoi. Et ça l'avait beaucoup bouleversé. Et puis il dit, ben, nous, on écrit comme ça, puis tu ne sais pas ce qu'on va faire ou ta chanson, ce qu'elle va devenir. Mais c'est vraiment un de ceux qui a écrit, parce que je pense qu'il est parti.
En 2019, il est devenu.
Oui, voilà. Et c'est celui qui a écrit les plus belles choses en lingala chantées. Je ne peux pas dire si.
Il y a aussi Taboulé.
Taboulé a écrit, mais c'est pas le... Taboulé, c'est... Il a des très, très... Non, Taboulé, c'est vraiment, comme dirait l'autre, c'est un Verlaine. Ah. Mais l'autre, ça peut être du Mallarmé. Je sais pas, c'est vraiment... Quand on lit, par exemple, des textes comme Testament, moi ça me bouleverse complètement, quoi. C'est-à-dire, C'est la très grande littérature.
Le Cimarron, là.
Mais ce qui est fou aussi, c'est qu'à Kinshasa, en fait, il y a eu Wendo Colossal, Desayo, qui sont un peu les précurseurs de la rumba. Et après, il y a eu des écoles, en fait. Il y a African Jazzy, il y a Tout Puissant OK Jazz. Et ensuite, il y a eu des petits groupes. En fait, c'est comme une espèce d'arbre généalogique comme ça. Après, il y a eu des Papa Wemba, des Diosa, effectivement. Et à Brazzaville, en fait, c'est ça qui est, est paradoxal, là, moi, ce que je me trompe, c'est que il n'y a pas, il y a eu Polo Kamba, il y a eu Antoine Mundanda, il y a eu les Bantous de la capitale, mais il n'y a pas tant eu, il y a eu plusieurs styles, mais c'était pas des écoles comme il y a. À Kinshasa, en fait, c'est ça qui est quand même là, paradoxal que je trouve.
Je pense qu'il y a un rapport quand tu parles OK Jazz, African Jazz, le rapport sociologique et sociopoétique de jazz, non, avec ces groupes qui sont concurrents en même temps où il y a des.
On n'est pas tant concurrents que ça.
Ouais, enfin, mais... concurrence, une émulation ou alors. Et puis il faut dire qu'ils avaient des lieux. À Brazzaville, il y avait pas, ils répétaient pas en public, alors qu'à Kinshasa, c'était. Quasiment
non, c'est des bars. C'est...
Oui, c'est des bars où il y avait l'orchestre.
L'orchestre, effectivement.
Alors que Brazzaville, c'est plus les boîtes, c'est plus une consommation.
Brazzaville a un statut, parce que dans la musique congolaise, Brazzaville avait un statut particulier. La musique se faisait à Kinshasa et se vérifiait à Brazzaville. Parce que c'est-à-dire que c'est Simaro aussi qui doit me raconter ça. Non, c'est pas Simaro, c'est pas lui qui nous raconte. Mais à un moment donné, quand il créait un morceau, c'est Sylvain qui me nous racontait. Quand il créait un morceau à Kinshasa, il fallait qu'il vienne le jouer à Brazza. S'il le joue à Brazza et que ça marche, tout de suite ils vont l'enregistrer. Si ça marche pas, ils se disent, il faut qu'on le retravaille un peu. Brazza, c'était le thermomètre. Et puis Brazza, c'était le lieu des muses. Les muses, toutes les muses dans la première génération, hein. Toutes les muses des musiciens étaient à Brazza. Parce que c'était les filles qui étaient à l'école. Qui étaient allées à l'école. Donc, les toutes premières générations par exemple, Fifi. Fifi, c'est une fille de Brazza. Elle était à la télévision. Et il y avait Vonvon, Adios Tété, voilà. Toutes ces filles étaient à Brazza. C'était les muses Djibébéké, qui a été la femme, une des femmes de Nisouba, était la muse de Rochereau. Donc c'est pour vous dire comment Marie Chantal, c'était une Tessa, tout ça. Donc Brazza, c'était vraiment le lieu où les muses, en fait, on venait chercher sa muse, quoi, à Brazza. C'est-à-dire, après, à Kinshasa, tu pouvais faire ce que tu voulais, mais ta muse, elle était à Brazza, quoi. Donc, Brazza a occupé ce rôle. Et les orchestres de Brazza, en fait, les Bantous, sont nés de Kinshasa. Parce que c'était à Kinshasa que ça se passait. Donc, Essou, Edo, Célio, Pandi, tous ces musiciens qui enfermaient les Bantous étaient à Brazza, étaient à Kinshasa. Donc en 59, en janvier 59, il y a des émeutes à Kinshasa, les premières grandes émeutes avant l'indépendance. Et Youlou, qui était déjà au pouvoir, qui était ministre de la communauté, il fait revenir tous les musiciens congolais qui étaient là-bas. Donc ceux qui jouaient dans des différents orchestres. Or, il y avait trois orchestres à l'époque, il y avait le Rokamambo, l'African Jazz et l'Oké Jazz. Donc tous débarquent à Brazza et il les fait jouer dans un... Il leur dit de former un groupe et donc ça devient le troisième courant, si vous voulez. Donc il y a l'African Jazz, l'Oké Jazz et les Bantous comme troisième courant. Ça va fonctionner comme ça jusqu'à l'arrivée, je pense, des jeunes qui vont créer ce fameux vraiment courant parallèle qui est le Zaïko. Le Zaïko, voilà. Qui est vraiment le groupe qui va, à partir duquel va, oui. Va dériver tous les jeunes qui
oui, chauffer,
du chauffer, voilà. On sera
moins plus, de collés serrés.
Voilà, moins de collés serrés, plus de.
Moins d'amour et plus de, voilà. D'action.
Voilà. Mais il y avait beaucoup.
Et, dans le film, j'ai vu parfois, on sent une utilisation des instruments, on chante un peu, c'est un rythmique, c'est beau à entendre déjà.
La question peut se poser effectivement aussi avec l'anglais. Est-ce que l'anglais n'est pas plus musical que. N'est pas plus musical que le français. Le français, si tu fais du rock, il faut vraiment trouver la bonne musicalité de cette langue-là. Je pense que le Lingala a fini par produire une sonorité qui s'est adaptée. Mais au début, quand on entend les premiers musiciens, c'est un truc, la première, la Ferruzzi d'Oliveira, c'est copié. C'est pas. C'est bien, quoi, mais c'est pas. Ça ne va pas produire avec. Je pense qu'il y a une argotisation du Lingala qui va lui donner une sonorité telle qu'on peut l'adapter. Mais par exemple, quand on entend le grand Calé chanter, lui, il colle le texte. Hein, c'est-à-dire que c'est assez. Or là, maintenant, il y a des choses qui. Par exemple, quand on entend Wendo, et je dis Wemba, il y a des choses qui sortent des sonorités Lingala même. Tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que c'est. On peut dire ça. Dans la langue. C'est-à-dire, on place, comme c'est des langues à ton, qu'on place le ton à un niveau tel que le sens peut être faussé. Voilà. Mais ça finit par produire une musicalité propre. Je pense qu'avec des allées-venues, c'est-à-dire que la langue a produit la musicalité qui a été retravaillée en plus dans la musique. Quoi. Mais le premier à avoir fait coller là, ça, et là-dessus, Van a raison, c'est Taboulé. Taboulé, vraiment, la musique de Taboulé colle là. Il y a une musicalité qui colle vraiment à cette langue-là. Et même si la première chanson qu'il a produite, elle n'était pas en Lingala, mais elle était en Kikongo de l'État, comme on dit, c'est-à-dire en Kituba. Voilà.
Bien.
Ben,
ouais, c'est la nuit.
La salle se vide. Donc,
la musique, on aurait fait, mais je crois que. On va peut-être libérer un camarade Claire.
Merci beaucoup.
Que l'on remercie.
Merci.